Pour la deuxième partie de ce sixième radiobarque, Alix Soler-Alcaraz, nous entrons, si vous le voulez bien, un peu plus dans le fond de ce qu'est le Parti Socialiste aujourd'hui. Alors, le PS, pendant très longtemps, d'abord, c'est un parti de gauche, c'est une banalité lapalissante que je rappelle, même si parfois les choses peuvent changer. Mais aujourd'hui, justement, vous, en tant que premier secrétaire fédéral, si vous avez, excusez-moi de l'expression, à vendre le Parti Socialiste, que direz-vous d'emblée ce que vous êtes et ce que vous voulez être aujourd'hui?
Alors, en résumé, en quelques secondes...
Ah, c'est un vaste chapitre.
Oui, je vais essayer d'être très synthétique, mais peut-être, ou plutôt, choisir quelques images. Par exemple, pour moi, aujourd'hui, être socialiste, c'est de refuser l'état du monde dans lequel il est, à la fois au niveau économique, financier, et donc avoir une puissance publique qui sache réguler donc la masse et les échanges financiers à l'échelle internationale, mais c'est aussi et surtout être capable de porter une voix de paix et d'apaisement à l'échelle mondiale. On le voit à quel point c'est important vu l'actualité internationale. Et puis, plus près de nous, pour moi, c'est de permettre une vie paisible et surtout de lutter contre toutes les formes de déterminisme et d'injustice qu'on peut connaître dans le pays. Et je pense notamment d'abord à la jeunesse. On a évoqué tout à l'heure les jeunes socialistes, mais je pense d'abord à tous ces jeunes qui sont au doigt, qui vivent sur le territoire et qui parfois, par manque de moyens financiers de leurs parents, ne peuvent pas choisir pleinement leur avenir, ne peuvent pas se rendre sur Montpellier ou Toulouse pour des études, ne peuvent pas se lancer dans la vie active parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides au niveau financier. Et je suis très fier que les socialistes portent aujourd'hui notamment une mesure d'autonomie pour permettre à tous ces jeunes, dès qu'ils ont 18 ou 20 ans, d'avoir un chèque de départ, un capital de départ, pour pouvoir se lancer dans la vie comme ils le souhaitent. Et puis c'est aussi pour des questions très centrées sur notre territoire, par exemple la santé, lutter pour des services publics et contre la désertification médicale. C'est un fléau dans l'Aude qui est extrêmement important, sur lequel d'ailleurs les députés socialistes ont fait des propositions il y a quelques mois à l'échelle nationale de relocalisation des jeunes médecins dans les territoires sous-dotés, et c'est une mesure que les députés RN audois ont voté contre, et donc ça, moi, je tiens aussi à le rappeler. C'est toujours bon de remettre un petit peu la mairie au centre du village, pour pas dire autre chose.
Oui, mais rappeler qui vote quoi,
parce qu'il y a les beaux discours, certains discours, et notamment beaucoup de démagogie qu'on peut entendre venant de leur part actuellement. Et sur ce sujet-là, en tout cas, ils n'ont pas du tout été à leur hauteur. Ils ont même trahi, pour moi, les attentes du territoire, et il faut le rappeler.
Alors, vous avez évoqué justement les moyens dont disposent ou dont ne disposent pas, par exemple, certains jeunes aujourd'hui. Bon, les moyens, la richesse, c'est avant tout l'économie qui la produit, c'est l'entreprise. Or, le Parti Socialiste, parfois, dans l'histoire, a eu des attitudes envers l'entreprise qui n'étaient pas forcément très encourageantes. Aujourd'hui, quel est le regard sur... Alors, on a toujours cette formule de François Hollande, « Mon ennemi, c'est la finance ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? Et est-ce que ça veut encore dire quelque chose pour un socialiste? Et si c'est le cas, expliquez-le.
Je pense que lorsque François Hollande dit, il y a plus de 10 ans maintenant, « Mon ennemi, c'est le monde de la finance », tout le monde comprend très bien où il veut en venir. Et ce qui ne tourne pas rond, justement, dans notre économie aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'enjeu de répartition des richesses et de régulation au niveau national et international. Quand vous avez des entreprises, des multinationales qui font des bénéfices extraordinaires et dont le taux de recouvrement de l'impôt est extrêmement faible, c'est totalement injuste. Et moi, je pense que la place des socialistes, c'est d'affirmer cette voie d'un pouvoir public qui est capable de mener une régulation de l'économie financiarisée, mondialisée, et donc ne pas avoir peur de porter ce genre de mesures. Alors évidemment à l'échelle nationale, mais c'est encore mieux quand c'est à l'échelle européenne, il y a des élections dans pas longtemps, où on a un véritable enjeu, c'est-à-dire que moi je suis convaincu qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui font du chantage, notamment à l'emploi, sur la question du taux d'imposition qu'on leur impose à l'échelle nationale, mais en réalité, je suis convaincu que si demain on augmentait leur taux d'imposition, elles resteraient quand même sur le territoire français parce qu'elles ont intérêt à y rester. Il y a un tas de richesses à se faire et donc, malgré le taux d'imposition, elles seraient quand même là. Donc je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut renouveler cette question-là, qu'il faut reprendre donc avec force ce sujet parce que c'est un enjeu de justice et que si on veut avoir demain une justice sociale et donc des services publics présents de qualité sur le territoire qui permettent d'aider vraiment la population, il faut avant ça dégager des ressources en allant chercher l'argent où il se trouve. Parce que sur les dernières années, la réalité, c'est que les entreprises, ces entreprises-là, je parle pas des artisans et des petits commerçants du coin.
Elles sont sous-imposées. Ben,
elles ont été sous-imposées, on l'a vu pendant la crise, elles ont fait des bénéfices records. Et là encore, d'ailleurs... Tiens, ça me permet de reparler du Rassemblement National et de l'extrême droite, qui n'est absolument pas au rendez-vous de ces questions. Quand la gauche, à l'Assemblée nationale, propose une taxe spéciale sur les surprofits de ces entreprises, qui sont juste liées à de la spéculation, ben, vous avez les députés RN qui votent contre, encore une fois. Donc vous avez les discours et vous avez les actes.
Alors la grande difficulté quand même aujourd'hui, et vous l'avez implicitement dit, Alix Soler-Alcaraz, c'est que l'économie aujourd'hui, ce sont les grands groupes internationaux qui sont à cheval sur les frontières, donc avec des qui dépendent pas d'un seul État. Et la difficulté, justement, parfois, c'est à l'intérieur d'un État d'imposer certaines réalités, par exemple imposer au sens fiscal des entreprises qui jouent justement sur alors parfois le chantage ou le déplacement ou la délocalisation pour employer un terme
que tout le monde comprend. Vous avez des entreprises, mais c'est toujours pareil. Là on parle vraiment d'une part de certaines entreprises.
Hein. Oui, moi,
parce que quand on parle des entreprises, on pourrait parler de l'économie sociale et solidaire et même d'associations qui aujourd'hui font
et les PME qui elles ne sont pas dans cette logique là.
Donc on parle bien d'une partie des entreprises. Et d'une partie du monde hein, qui clairement aujourd'hui est dans un système totalement sauvage, totalement libre, sans aucune contrainte. Et je pense qu'il faut avancer à l'échelle, en tout cas européenne, c'est le meilleur moyen qui nous est offert demain, c'est d'avancer à l'échelle européenne pour que tous les États membres soient imposés au même niveau donc et des taux d'imposition similaires pour ce type d'entreprise-là. Et je vous assure qu'avec l'Union européenne qui représente près de 30% ou 35% de l'économie mondiale, les entreprises, elles vont pas quitter l'Union européenne demain. Total ne quittera pas l'Union européenne demain s'il est plus imposé.
Ça reste un marché important dans le monde.
Mais voilà, donc ce chantage-là, il peut prendre fin si en face il y a une volonté politique forte, et c'est ce que nous on proposera en tout cas à l'échelle européenne pour les élections de juin prochain avec les socialistes.
Alors oui, alors les prochaines élections c'est les européennes, on y reviendra parce que c'est quand même important, ne serait-ce que la valeur Europe reste importante j'imagine pour vous, on se trouve aujourd'hui donc, enfin comme toujours en démocratie, pour appliquer ce qu'on veut faire, c'est sa plateforme, il faut la majorité, il faut l'union, il faut réussir à se faire élire. Alors, bon, vous le rappelez, aujourd'hui, les réalités politiques sont ce qu'elles sont. En ce qui concerne la conquête du pouvoir, appelons un chat, certaines stratégies aujourd'hui peuvent interroger. Par exemple, il y en a une qui est récente dans l'Aude, qui touche les Républicains, mais avec une volonté, je pense, qui va au-delà du département, les Républicains qui ont manifesté récemment, à Carcassonne même, je crois, la volonté de s'allier ou de faire quelques alliances avec des élus du Rassemblement national. Ce qui, d'ailleurs, n'a pas fait l'unanimité dans le parti des Républicains. Vous, alors, c'est à Carcassonne que ça s'est passé, quel est votre regard là-dessus ?
Oui, alors.
Est-ce que ça vous semble crédible déjà cette.
Bon, Honnêtement, quand j'ai vu déjà le nom RPR donné à
Oui, en
cet
plus.
organisme, alors j'ai trouvé ça, mais bon, ça m'a fait sourire parce que bon, je pense que c'est pas
Est-ce que
avec
c'est
ce
de
genre de
l'humour ou
nom
de la
qu'on...
provocation?
Non, mais je pense que ça rend pas très dynamique et ça fait un peu plus formation du passé et fonctionnement du passé qu'autre chose. Et je trouve pas ça particulièrement vendeur, mais bon, c'est un peu leur problème. Non, moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est effectivement de voir certaines petites, enfin, personnalités adhérer à cette mouvance-là, et finalement, pas si nombreuses que ça. Moi, j'ai été plutôt surpris positivement par les réactions que ça a suscité,
Au sein des
notamment,
Républicains Audois, par
voilà,
exemple.
chez comment dire, des politiques de droite qui que je respecte évidemment, hein, qui avec qui on n'a pas du tout les mêmes valeurs, mais qui ont rétabli une forme de cordon sanitaire vis-à-vis du RN en réaction à cette création d'organismes, hein. Donc je trouvais ça très intéressant à ce niveau-là. Et enfin, des personnalités de droite dans l'Aude qui réaffirmaient leur refus d'échanger et d'évoluer avec l'extrême droite. Et je pense que c'est plutôt positif dans le message que ça renvoie. Après, honnêtement, ils relancent cette opération de leur, enfin, ils mettent en place cette opération-là de leur côté. Nous, on relance les jeunes socialistes. Je trouve que ça a quand même, voilà, plus d'ambition de relancer les jeunes socialistes sur le territoire. Et d'ailleurs, je rappelle aux élus audois qui sont de sensibilité de gauche et se sentent proches du Parti socialiste qu'il existe depuis quelques mois aussi, puisqu'on a relancé il n'y a pas longtemps avec Philippe Andrieu, en tant que président, l'Union départementale des élus socialistes et républicains, qui est une association qui vise
Qui
justement
serait un
à
peu une
coordonner,
contrepartie
oui,
de...
en quelque sorte, on peut dire ça, peut-être même que c'est par réaction, hein, qu'ils ont créé le RPR, mais en tout cas, en tout cas, on a la volonté d'amener plus de formation et de coordination entre les élus qui se sentent vraiment de gauche sur le territoire. Donc, ils ont aussi cette possibilité-là de participer.
On marque, Alix Soler-Alcaraz, une seconde pause. Troisième partie, eh bien, on restera un petit peu sur la substance et sur la façon dont on voit l'avenir et surtout la façon dont vous voyez l'avenir.